RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h05, l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. Gauthier Grumier, vice-champion du monde d'épée, le français s'est incliné face au Hongrois Geza Imre en finale à Moscou. Il est donc médaille d'argent, c'est la deuxième médaille pour l'équipe de France dans ces championnats du monde. Ils sont là pour vous, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, notre duo infernal de 20h. Rebonsoir à tous les deux.
Bonsoir Virginie.
Et il y a du monde au 32-16 pour vous sur Twitter également avec le hashtag RMC Live. On va d'abord parler de la victoire de Rafal Majka. Ça change rien au général, hein, de toute façon, parce qu'il était très très loin. Il était à 51 minutes, je crois, avant cette étape. Donc, en gros, les Sky l'ont laissé partir.
Disons qu'il est parti dans un groupe. Et puis après, il est allé chercher sa victoire comme l'an dernier, deux fois, une fois dans les Alpes, une fois dans les Pyrénées. C'est un super grimpeur, un super coursier. Après, c'est un super lieutenant aussi. Donc, moi, j'y avais pensé, mais franchement, je pensais qu'il allait rester aux côtés de son leader, Contador. Même si Contador est moins bien, je ne pensais pas qu'il puisse s'initier dans une échappée.
Et le fait justement qu'il lâche Alberto Contador là, ça veut dire que Contador ne se fait plus d'illusions véritablement déjà pour ce Tour de France. Il est à un peu plus de 4 minutes hein, de Chris Froome au classement général.
Oui, je pense qu'il a plus l'ambition déjà de gagner le Tour, ça c'est clair, je pense.
Mais c'est pas, enfin, 4 minutes, c'est à la fois beaucoup, mais pas
beaucoup
tant que
et
ça.
Peu, mais oui, mais faut savoir que vu que Froome a une telle emprise, du moins il a mis tellement la barre haute la première étape des Pyrénées que il a cassé tout espoir aux adversaires, parce que les autres à part Quintana qui a essayé de le suivre, il a même pas essayé de répondre à son attaque, il a essayé de le suivre et il a pris quand même plus d'une minute. Donc derrière il se remobilise peut-être, on verra ça demain, et dans les Alpes. Mais 4 minutes, faut aller les chercher sur n'importe quel coursier peut-être, mais sur un Froome tel qu'il
c'est
est
cette
année.
C'est un petit peu plus compliqué.
C'est compliqué.
Salut Lucho.
Salut.
On t'a retrouvé.
Excuse-moi, mais il s'est passé un événement sur le Tour et on était en train d'en discuter sous les tentes.
D'accord.
Voilà. Il y a eu 4 accidents dans la descente de Cotteret, assez grave, et tout est bouché.
Non.
Voilà, ouais.
Des
une cycliste qui aurait percuté un motard et 3 autres accidents derrière. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on est.
Bon, évidemment, on vous tient au courant. Côté, hein, voilà. Notre équipe est sur place. Hein, tous les reporters d'RMC Sport sont là et dès qu'on a du nouveau, évidemment, ils vont nous appeler et nous en dire plus. En attendant, Lucho, on était en train de parler de Rafal Majka, le vainqueur, qui est un équipier d'Alberto Contador. Et je demandais à Bourgui si le fait qu'il ait lâché comme ça Contador, ça veut dire que déjà Contador c'est plus beaucoup d'illusions pour la victoire finale. Et Bourgui me disait qu'effectivement il devait avoir un peu lâché en tout cas l'idée de remporter ce Tour.
Ben certes, les illusions de Contador se sont un petit peu envolées par rapport à l'étape d'hier. Après, bon, tout n'est pas terminé non plus. Mais bon, c'est vrai que son équipier qui a remporté cette très très belle étape aujourd'hui, c'est un bonus pour son équipe et c'est un petit moral. C'est un bon moral qui arrive, je dirais, à point nommé dans l'équipe Tinkoff. Après, c'est vrai que on va voir demain Virginie, mais quand on se fait un petit peu lâcher dans la première étape pyrénéenne, on voit mal comment Contador peut réagir demain en essayant de reprendre du temps à Froome. Donc voilà, mais déjà c'est bien que l'équipe Tinkoff ait pu remporter cette très belle étape aujourd'hui. Après, on verra par la suite, mais il faut pas dire non plus que Contador a tout lâché aujourd'hui. Il reste quand même de nombreuses journées avant les Champs-Élysées.
Alors, Contador, je ne sais pas, mais Quintana, pourquoi pas? En tout cas, Stéphane nous appelle au 32-16. Stéphane, vous croyez, vous, que Quintana va réagir?
Bah écoutez, oui, déjà, bonsoir à toute l'équipe. Merci bonsoir. De nous faire vivre les étapes avec autant de passion. Aujourd'hui, on a vu une course un peu cadenassée, mais vous avez réussi à me faire sourire plus d'une fois, notamment Lucho, quand il parlait de la position de Majka dans la descente. Voilà.
Ah ouais.
On sentait le vécu. Mais bon, je ferme la parenthèse.
Oui,
je crois en Quintana encore. C'est vrai qu'on a eu une terrible démonstration de force de Froome et son équipe hier. Et bon, ça a mis un peu une chape de plomb avec des interrogations. Et là encore, je voulais vous féliciter parce que vous l'évoquez pas à demi-mot. Alors, certains ne sont pas d'accord, d'autres pas, mais c'est bien d'ouvrir le débat. Je crois malgré tout, on a un parcours qui est extraordinaire. Il y a encore de très belles étapes à venir. Quintana, c'est vrai qu'il a lâché un peu de temps, il a lâché un peu plus d'une minute, il a 3 minutes au général, ça commence à faire beaucoup, mais vu le profil des étapes qui s'annoncent, et Quintana, c'est quand même pas n'importe quel grimpeur, moi je me dis que si demain, par exemple, il récupère 30-40 secondes, il aura encore d'autres étapes avec des arrivées au sommet extrêmement difficiles, et puis d'autres parfois 40 secondes, on commence à être pas loin du compte, sans compter un jour sans de Froome, qui peut quand même arriver. Même si pour l'instant, on est très loin de pouvoir le penser. Et je rejoins un peu Cyril qui voit encore Quintana. Je suis peut-être un utopique, mais je pense encore que c'est possible. Et j'en fais encore mon favori. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous pensez que c'est un scénario plausible ou
que
c'est complètement
fini. Pour Guy Lucho, est-ce que Quintana peut encore être favori?
Mais bien sûr, c'est le mieux placé pour l'être, hein, de toute façon. C'est le mieux placé pour mettre en difficulté la Sky. Parce que le problème, c'est même pas Froome. C'est la Sky. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il a quand même ses deux lieutenants, Thomas et Richie Porte, qui sont de véritables leaders. Pour d'autres équipes, ça pourrait être vraiment des leaders. D'ailleurs, Richie Porte s'en va en fin d'année pour être le leader d'une autre équipe. Donc, c'est là que c'est compliqué, parce qu'il a une solide équipe et ils vont l'accompagner jusqu'au sommet.
Donc,
c'est plausible.
Oui, non, mais tu as raison.
Ça risque d'être difficile.
Oui, c'est toujours difficile de reboucher 3 minutes sur Froome, mais c'est vrai que le seul coureur qui est capable de le faire aujourd'hui, c'est bien Quintana. Après, Cyril a raison. Il a mis vainqueur du tour, comme moi je l'ai mis vainqueur du tour. Donc, il ne faut rien lâcher jusqu'à la dernière étape. Donc, l'avant-dernière étape, c'est l'Alpe d'Huez. Donc, il y a quand même de sacrés morceaux encore à jouer pour Quintana et son équipe, la Movistar, et notamment Valverde qui va épauler Quintana, qui peut éventuellement aussi troubler un petit peu les cartes, hein, Valverde, parce que il est toujours un petit peu, ouais, il est toujours là, quoi. On l'a vu hier, il a attaqué. Aujourd'hui, il était quand même encore là. Demain, on va voir comment ça va se passer. J'espère que Quintana ne va pas réagir dans la dernière ascension, le plateau de Baye, parce que c'est vrai que le plateau de Baye, une dernière ascension, c'est toujours délicat quand on voit un Froome fringant comme il est aujourd'hui. Donc, si Quintana veut éventuellement reprendre du temps sur Froome, il va bien falloir attaquer dans l'avant-dernier col pour voir un petit peu la réaction de l'équipe Sky.
Merci c'est beaucoup, loin, Stéphane.
C'est moi qui vous remercie et continuez de nous faire vivre ça avec passion, c'est top.
Merci à vous, à très bientôt au 32-16. Il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir aussi. Tout à l'heure, je connais ce qu'en pensent Christophe Cessieux et Cyril Guimard. Maintenant, j'aimerais avoir vos points de vue à vous tous les deux. On a vu Tony Galopin rattrapé par les Sky en fin d'étape. Et ça choquait beaucoup, aussi bien Christophe que Cyril, qui disait « mais c'est pas possible, ils peuvent rien laisser ». En fait, ils appelaient ça l'impérialisme des Sky. Est-ce que vous aussi, vous avez été choqué par cette image, ou est-ce que vous trouvez qu'après tout, c'est normal et que c'est quand même une compétition et que les Sky, comme les autres, sont là pour gagner, sauf que, bon, évidemment, eux, ils gagnent un petit peu plus que les autres.
Ils vont chercher tout le monde, même sur le grimpeur. Sur le grimpeur, ils sont allés chercher le petit Français... qui a démarré dans le dernier kilomètre, du moins les 500 derniers mètres, et forcément, qui est allé chercher, c'est Thomas, le lieutenant du maillot jaune, Froome, et Froome a passé le col en tête. Alors je sais pas à quoi il joue, parce que en faisant en prenant ce système, ils vont se mettre tout le monde à dos.
Non, oui, mais comme l'équipier de Froome était devant classement général devant Tony,
oui.
La Sky a roulé pour conforter la cinquième place de l'équipier
Thomas.
De Froome, voilà, de Thomas. Donc c'est à la limite c'est compréhensif aussi. Donc voilà, c'est pas.
Mais on dit ils vont se faire détester, mais. Moi, ce que je me dis, c'est aussi la course. Et puis, est-ce que c'est pas un moyen de respecter ses adversaires, que de vouloir gagner à chaque fois, pas de décider. Bon, ok, toi, t'as le droit, tu peux arriver avant moi. Toi, non. Bon, ils veulent gagner tout, quoi. Je trouve ça plutôt sain, comme attitude.
Mais rappelez-vous, il y en a un qui faisait pareil. C'était Armstrong. Armstrong, il allait chercher tout le monde. Il même pour une étape, lui. il fallait qu'il paye l'addition, qu'il fasse payer l'addition à tout le monde. Du coup, ben, on se met le peloton à dos aussi. Donc, il y a des moments où on peut se trouver en difficulté, qu'on a, on aura peut-être besoin de, d'une équipe ou deux pour nous donner un coup de main parce qu'il y a des alliances de circonstances. Et dans
et là,
ces
y aura
cas-là,
personne.
Ben, dans ces cas-là, il y aura beaucoup moins de monde, hein, si on va chercher tout le monde, sur tous les classements.
Alors, on va aussi parler avec Bruno, de l'étape du jour. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir Virginie, bonsoir Luc, Thierry et
bonsoir.
Cyril.
Bonsoir. Oui. Bruno.
Vous voulez tout faire à l'envers, vous, Bruno ?
Non, c'est pas grave. Non, mais je vous remercie de nous vivre, enfin, comme disait le collègue avant, de nous faire vivre comme ça, c'est magnifique. Donc moi, je vais vous poser la question par rapport au pas d'aujourd'hui et le Tourmalet, que bah, Cyril connaît très bien en tant que rouleur et puis en tant que en voiture également, et vous, les deux autres, en tant que rouleur également. Je voulais vous demander... Est-ce qu'il ne serait pas, moi qui le connais pour avoir fait du ski dessus, bien de faire tomber dans l'autre sens, à partir de Barèges? Parce que je crois, pour l'avoir fait de Barèges, enfin à ski, à Super Barèges, et surtout au pied de Super Barèges, il y a énormément de lacets et ça monte énormément. Et là, ça pourrait peut-être être un intérêt, par rapport à aujourd'hui, un intérêt plus intéressant, parce que bah, ça grimpe, et là, il pourrait y avoir une meilleure bagarre que par la Mongie.
Sous la Mongie, ça monte aussi.
Les
parabalances, les deux sont similaires. C'est vrai que le sommet de l'autre côté est peut-être un peu plus dur avec les lacets.
Ah oui, il est énorme, hein, de Super Barèges au Tourmalet. Moi, je le vois quand on fait le ski, on voit la route et ça ne fait que tourner en permanence. Hein.
Oui, mais ça monte un pourcentage guère plus costaud que de l'autre côté. Quand
mais
même.
Je sais pas, peut-être que ce que veut dire Bruno, c'est que bah, par exemple aujourd'hui, on a vu que les favoris se bagarraient plus dans le Tourmalet. Ils sont bagarrés hier, peut-être demain, mais que c'est plus ce que c'était. J'ai envie de dire.
Non, mais il aurait fallu faire une arrivée au sommet pour vraiment avoir la bagarre dans le Tourmalet. C'est une arrivée au sommet ou une arrivée juste en bas, parce que c'est pareil. Parce que alors que là, il y avait 44 kilomètres, je crois, du sommet jusqu'à l'arrivée. Donc pour lâcher quelqu'un, avoir autant d'avance, il fallait au moins un minimum de 4 minutes pour être sûr d'aller au bout. Hein.
Donc, combien de kilomètres entre le haut du Tourmalet et Aspin, par exemple? Il y a beaucoup?
Tour du... Alors, je suis en train de regarder. Ça descend plus raide déjà. Le pied d'Aspin. Parce que après on est dans le col déjà, donc il y a 17. 30.
Je te laisse faire les calculs là.
30 kilomètres juste. 30 km entre sommet d'Aspin et Tourmalet.
On verra dans un prochain tracé du Tour de France. Merci beaucoup Bruno d'avoir appelé 3216. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. Bourgui, pourquoi les autres favoris, enfin je sais pas si on peut encore les appeler favoris, mais n'ont pas plus attaqué Froome aujourd'hui?
Moi je vois pas, bon, même si Lucho dit qu'il faut attaquer de loin. Il faut être super costaud pour tenir la distance, c'est ça le problème. Et si les leaders attaquent de très loin, ils vont être obligés de se dépouiller complètement jusqu'à l'arrivée. Et derrière, Froome avec ses équipiers de luxe on l'a vu. Il y a juste Richie Porte a fait les 50 derniers kilomètres de l'étape. Et il n'a pas perdu, du moins il n'a pas voulu revenir sur les autres non plus. Hein. Et c'était pour essayer de tenir en respect tous ceux qui avaient avec lui. Donc je pense que c'est utopique de penser que les adversaires de Froome l'attaquent même demain, à la rigueur l'attaquent dans l'avant-dernier. C'est parce que, mais il y a quand même une longue descente avant d'arriver. Il y a 30 kilomètres quand même. Mmh. 30 kilomètres de faux plats, de descendants, de descente et de faux plats descendants. Donc ça risque d'être très long pour ou alors s'ils sont vraiment organisés, eh ben pourquoi pas un Valverde avec un Quintana et puis quelques coursiers.
Oui, là faut trouver des stratégies au bout d'un moment. De toute façon, il faut bien faire quelque chose.
Le problème, c'est que combien vont-ils être dans le groupe du maillot jaune? Dans l'avant-dernier.
Oui, l'autre chose que je demandais à Bourgui, c'était pourquoi les autres favoris, enfin dits favoris, n'avaient pas plus attaqué le maillot jaune, Chris Froome, aujourd'hui.
Bah, déjà, il faut avoir les moyens d'attaquer. Il y en a qu'un qui peut essayer d'attaquer Chris Froome aujourd'hui, c'est Quintana. C'est Quintana qui peut éventuellement faire péter la baraque. Hein. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas du même avis avec Thierry, certes, mais qui tente rien n'a rien, essayer de tester un petit peu même de loin, au pied du Tourmalet, de savoir un petit peu la réaction de Froome et de son équipe, c'était peut-être pas mal aussi. Peut-être que Froome aujourd'hui était peut-être dans un mauvais jour, parce que c'est toujours difficile de pouvoir voir un petit peu la réaction de Chris Froome, de savoir s'il est bien ou pas bien. Il est tellement il est tellement moche, excusez-moi du terme, sur un vélo qu'on sait jamais s'il est bien ou pas. Donc à un moment donné, on a l'impression qu'il est mal, et en fin de compte il leur met une mine, et puis il leur met une minute voire plus aux principaux leaders. Donc c'est vrai que c'est difficile à savoir un petit peu la condition de Froome. Donc la seule solution pour le savoir, c'est d'éventuellement d'essayer de tenter quelque chose. Ça ne coûte rien de tenter quelque chose.
De toute façon, après, il faut bien parce que sinon de toute façon c'est fini, quoi. On peut s'arrêter demain, quoi. Donc autant tenter quelque chose.
Ça serait quand même monotone jusqu'au champ s'il y a rien de. Ben écoute, moi demain je le vois. La première montée, il risque rien de se passer. Mais je pense que les velléités de certains leaders, dont celle de Quintana, ben il faudrait essayer peut-être dans le deuxième, aller au pire dans le troisième, mais ne pas tenter que dans le plateau de Bay, quoi.
Ouais, mais imagine qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent un gros groupe, parce que s'ils sortent tout seuls ou à deux simplement, ça va être du pain béni pour la Sky qui va gérer derrière,
à la limite,
et puis qui va venir les bouffer dans la dernière montée.
Ouais, mais à partir du moment où si Froome n'a plus d'équipier, bon, et après Froome il sera bien obligé de prendre les devants et de rouler sur Quintana seul sans équipier. Déjà, je pense qu'il faut déjà éliminer les équipiers de Froome. Déjà, c'est la première
problème,
chose.
Tu sais qu'ils l'ont fait hier. Hein.
Ouais, ils l'ont fait hier, mais il y avait pas suffisamment.
On essayé de le faire, et en fait, c'est eux, qui ont pris le retour de manivelle.
C'était une ascension sèche hier.
Oui,
il n'y avait pas de col avant. C'est vrai que c'est.
Regarde aujourd'hui.
C'est avant la Pierre Saint-Martin. Donc,
attendez, peut-être qu'Eric a une solution. Hein. Peut-être qu'Eric a une solution au 32-16. Bonsoir,
secours,
Eric.
S'il te plaît.
Alors déjà, bonsoir à tout le monde. Merci pour vos émissions. Je n'ai absolument pas la prétention de donner une solution. C'est juste une question. La Sky domine largement le peloton. Froome aussi, et la Sky surtout, et avec les coéquipiers, comme vous le dites. Pourquoi les différentes équipes avec les grands patrons comme les Movistar, comme les Pinkoff, etc., ne s'allient pas en définitive en disant bon, ben, demain on va faire le plateau, on va attaquer à tel endroit, c'est un attaque, à tel endroit, c'est un attaque, pour éliminer.
Ça, c'est une mafia.
Mais pourquoi pas? Pour éliminer, s'il va gagner, il faut faire quelque chose. Sinon, à armes égales, ils n'y arriveront pas tout seuls, si j'ai bien compris, si je vous écoute. Et pour éliminer un par un les équipiers, pour que finalement ils se retrouvent. Froome se retrouve plus tout seul, et que ça soit Froome contre Movistar, contre Quintana et Contador, par exemple, mais que eux, pas avec les coéquipiers.
En fait, c'est ce qu'on appelle un concours de circonstances, qui est du moins une alliance de circonstances.
Oui, complètement.
Mais je pense que demain, s'ils veulent mettre un peu le why dans le peloton, il n'y a que cette solution. Il ne faut surtout pas que les adversaires de Froome se courent après. C'est surtout ça. C'est-à-dire que si Movistar attaque, il faut pas que ce soit une autre équipe que l'équipe de Froome qui roule.
Ça serait du pain béni pour Froome et son équipe.
Bien sûr. Mais bon, jusqu'à présent, on a vu que ça par le passé. Regarde, Armstrong a toujours profité de la défense des places au général. Et quand il n'y avait plus d'équipe, c'était ses adversaires qui allaient chercher les gars pour défendre leur place au général.
Tiens, j'en profite, puisque Bourgui, tu viens de parler d'Armstrong, on sait qu'il sera là demain, Armstrong, et après-demain. Oui, mais je vais quand même poser la question.
Hein.
Pas sur le tour, effectivement, il est là. En marge du tour, bon, pour une œuvre caritative, on va quand même le dire, qu'est-ce que vous pensez de sa présence? Parce que tout le monde en parle. Froome a quand même dit que c'était un non-événement. Est-ce que vous avez tendance à penser la même chose, ou est-ce que vous trouvez que c'est une provocation?
C'est une provoque, sûrement, parce que de toute façon, Armstrong ne vit que dans la provoque. Mais voilà, je partage l'idée de Froome. D'en parler, c'est lui donner de l'importance. Donc qu'il fasse sa vie, moi voilà, il a payé largement toutes les conneries qu'il a faites dans le vélo. Le vélo marche très bien sans lui, et puis voilà, c'est tout.
L'autre chose, tu penses aussi à la même chose dans la
Virginie,
dans...
Oui, je vais pas m'étendre sur le sujet.
Ah non, mais voilà, moi j'ai posé la question On va plutôt parler des performances.
Comme Thierry, voilà, c'est un petit peu de provoque. Il sera en dehors du tour quand même, mais ceci dit, il est sur le tour, quoi. Voilà.
Il a réussi son truc.
Il a réussi sa communication.
Eh ben oui,
voilà. Bon, alors, on va s'arrêter là sur sa communication parce qu'après tout, il l'a fait effectivement très bien tout seul. On va plutôt parler avec Mohamed au 32-16 des équipes françaises. Bonsoir, Mohamed.
Oui, bonsoir, Virginie.
Bonsoir, Mohamed.
Vous m'entendez?
Bonsoir, Mohamed, vous posez des questions sur les performances des équipes françaises.
Voilà, bon, Virginie, déjà, j'apprécie que vous les contrez un peu parce que bon, ils ont toujours à dire, ouais, les Français, ceci, cela. Nous, on en a marre. Nous, on est au camping, là, on a les Anglais, les Hollandais, et tout, ils nous chambrent. Moi, je comprends pas, les Français, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est des chèvres. Je m'excuse, mais c'est des chèvres.
Je suis pas d'accord avec vous, Mohamed. L'année dernière, les Français, on n'a jamais dit des Français que c'était des chèvres l'année dernière. Ils ont fait quand même 2 et 3 au classement général. L'année dernière, c'était pas des chèvres. Il y a des années avec, il y a des années sans. Et il faut se poser les bonnes questions de savoir pourquoi les Français n'étaient pas au rendez-vous du Tour de France cette année. Mais de là à dire que ce sont des chèvres, vous savez, une saison, c'est long. Le cyclisme, c'est un sport quand même qui est très difficile. Après, ils ont peut-être eu un problème de préparation physique, ou alors ils ont peut-être un problème de santé. Et on en saura plus dans les prochains jours. Par rapport à certaines analyses médicales qu'ils vont effectuer dans les prochains jours, mais il faut pas cracher sur les coureurs français. Je pense qu'ils donnent une très bonne image du cyclisme. Bon, aujourd'hui ils passent au travers, c'est tout. Mais
on peut pas en avoir deux sur le podium tous les ans non plus. Merci messieurs, je suis obligée de vous couper parce que 20h30 approche déjà, mais on va se retrouver dès demain, 14h pour cette troisième étape pyrénéenne, dès 14h dans l'intégral tour sur RMC avec le plateau de Baye pour finir. Je sens que ça va encore être agité. Donc rendez-vous demain. Nous, on se retrouve également à 20h tous les trois avec vous au 32-16. Dans un instant, on va parler de foot avec le président du Red Star, Patrice Haddad, puis avec Safet Susic, nouvel entraîneur d'Evian Thonon-Gaillard. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h30, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h, après ce sera l'after, ce qui est assez logique. Florent Gautreau et sa troupe vont notamment revenir sur le match Lyon-PSV Eindhoven ce soir. C'est au 32-16 que ça se passe si vous voulez réagir. Mais pour l'instant, notre invité est Patrice Haddad, le président du Red Star. Bonsoir Patrice Haddad.
Bonsoir Virginie.
Alors on est le 15 juillet, ça approche là, hein. Dans 15 jours c'est la Ligue 2, l'ouverture de la saison. Qu'est-ce que vous ressentez à quelques jours du coup d'envoi de cette saison?
Non, c'est impressionnant, je dirais presque, de savoir qu'on va affronter cette Ligue 2 professionnelle maintenant, parce que ça annonce un futur et un présent et un futur pour le Red Star totalement différent qu'on avait prévu et espéré quand on avait repris le club en 2008. Et aujourd'hui, on est en face d'une réalité où il faut maintenant structurer le club version professionnelle. Donc la première étape était, vous avez vu le stade, les structures, et tout ça est très difficile. Je pense qu'on va en parler, mais voilà, c'est la première étape sur laquelle on passe. Donc on a eu une validation de notre statut pro provisoire, mais on va pouvoir faire ce championnat.
Vous allez pouvoir faire ce championnat avec quelles ambitions? Puisqu'on sait qu'à terme, votre but, c'est la Ligue 1, mais tout ça, ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Donc là, vous débarquez en Ligue 2 avec quels objectifs?
Écoutez, déjà de faire un recrutement qui garde l'état d'esprit de ce qu'on avait acquis l'année dernière, et c'est un travail de longue haleine d'additionner des joueurs qui permettent d'avoir une philosophie et une allure dans un club. On va essayer de continuer ça dans le recrutement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis donc de faire quand même bonne figure au niveau du terrain dans ce championnat, tout en essayant d'être conscient que il est très long. Et que même s'il y a un très bon démarrage ou un meilleur milieu ou une bonne fin, il va falloir quand même être assez constant pour pouvoir espérer un bon maintien.
Parce que vous avez conscience que vous allez être très observé, vous êtes promu certes, mais vous avez un nom qui est quasiment une marque connue sur toute la France, d'abord parce que c'est Paris, et puis c'est le Red Star, ça représente une sorte de fantasme chez les supporters de foot dans tout le pays, donc vous avez une sorte de responsabilité là en arrivant en Ligue 2.
C'est vrai que c'est une marque très forte, c'est un club très fort, qui a 120 ans, le deuxième plus vieux club français, derrière le Havre. Donc c'est qui a survécu à tellement de choses, qui a aussi un beau palmarès. Écoutez, franchement, de retrouver cette Ligue 2, c'est de le remettre en lumière. C'est vrai qu'on a vu le réveil populaire qui était possible en étant champion de national. Est-ce que ça a pu réveiller comme supporters qui découvraient ou d'anciens et de ceux qui trouvaient une alternance, une alternative à d'autres projets. On a vraiment vécu une saison où on oublie qu'on est en national parce qu'on fait un championnat et où les émotions étaient très très fortes et on est comme beaucoup d'autres clubs créateurs d'émotions et je crois que c'est ce qu'on cherche dans le football et franchement on n'en est pas avare d'émotions.
Et puis vous avez même des supporters jusqu'au sommet de l'État, hein, quelqu'un qui s'appelle François Hollande par exemple.
Écoutez, je crois qu'il a plusieurs clubs dans son cœur sur ce football populaire. Je crois qu'il aime aussi Rouen, etc. Mais il aime le football populaire, il nous l'a fait savoir. Maintenant, on est, c'est un club libre, indépendant, privé, qui est ravi d'avoir des regards aussi prestigieux. Mais il va falloir qu'on démontre quand même sur le terrain qu'on mérite ce prestige.
Alors on sait que l'un des problèmes du Red Star cette année, ça va être le fait de ne pas pouvoir jouer à domicile, puisque votre stade n'est pas homologué pour l'instant. Alors on a tout entendu hein, sur les matchs à domicile. On est bien d'accord que la plupart de ces matchs, vous allez les jouer à Beauvais.
Ce qui est concret aujourd'hui, c'est qu'on a signé une convention avec le maire de Beauvais sur une mise à disposition pour l'ensemble du championnat. Ce qui donne une sécurité. Il y a eu des investissements qui ont été faits par la mairie, que je remercie vraiment chaleureusement, pour mettre aux normes Ligue 2, ce stade, qui ne l'était pas totalement, et qui a trouvé le temps et les moyens de le faire en très très peu de temps. Donc ça peut nous permettre de répondre, et c'est pour ça que on a une validation de la LFP, on peut répondre et recevoir la totalité des matchs. Maintenant, il y a aussi le département qui est très important dans notre projet. Le président Stéphane Troussel et son délégué au sport Mathieu Hanotin nous ont accompagnés dans cette mise en place du club au sein du département. Donc c'est là où on a réveillé une relation possible avec le Stade de France. Patrick Braouzek a aussi œuvré dans ce sens. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun accord avec le Stade de France.
Donc pour l'instant, à la date à laquelle on parle, il n'y a aucun match prévu au Stade de France.
Il y a 8 dates qui sont possibles, mais aucun accord n'a été signé avec le Stade de France sur les moyens à mettre à disposition. C'est un gros stade qui demande une mise en place importante, qui n'est pas prévue pour ce genre de manifestation. Donc on n'a pas trouvé aujourd'hui l'équation qui permettait de le faire, malgré la bonne volonté du Stade de France et d'Alexandra Bouteillé et de Vincent Copé. On n'y arrive pas. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui se passera au Stade de France. Nous, on souhaite toujours pouvoir faire quand même quelques matchs dans le département, montrer que le Red Star appartient à ce département. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Oui, parce que pour les supporters, même, c'est pas évident. Beauvais, c'est quand même assez loin. Donc, comment vous allez faire pour garder vos supporters et pour faire en sorte qu'ils se déplacent avec vous?
Vous savez, c'est déjà extraordinaire de pouvoir répondre à ce championnat cette année. Et qu'une mairie en dehors de l'Île-de-France, Beauvais, ait pu répondre favorablement. Maintenant, je pense que c'est une crise de croissance habituelle qui revient tous les 15-20 ans au Red Star. Celle-ci, il faut la passer. C'est pour ça que j'ai accepté de m'excentrer et d'aller à Beauvais, parce que qu'on a été chercher la mairie de Beauvais, parce que il faut qu'on le fasse, ce championnat, qu'on montre ce qu'on peut amener à travers ce milieu professionnel. Il faut qu'on lance ce centre de formation, il faut qu'on existe dans le milieu professionnel. Donc les supporters, c'est quelque chose qui sur lequel il va falloir répondre au niveau de la logistique. Mais bon, étape par étape, on n'est pas les structures d'un club surdimensionné, ni au niveau salarié, ni au niveau moyen. Donc on va y aller doucement en espérant que nos supporters sont indulgents et qu'ils nous accompagnent le mieux possible.
Déjà, vous leur proposez des abonnements pas très chers, je crois, pour cette année, pour qu'ils aillent au match à domicile à Beauvais.
Oui, effectivement, les supporters, c'est pour nous une préoccupation puisqu'ils nous ont accompagnés. C'est un des critères de qualité de ce club. C'est c'est l'accompagnement des supporters. Donc on va proposer une logistique. On a fait effectivement un abonnement très bon marché. Une place à 5 €, quel que soit le stade où on jouera, et même si c'est au Stade de France, mais on n'a pas fait de différence entre les deux. Voilà, on restera populaire, on restera présent, et on espère que les supporters comprendront cet interlude, j'espère le plus court possible, parce qu'on essaye de remettre, de relancer les travaux au Stade Boer, avec une réunion qu'on a eue il n'y a pas longtemps avec le maire de Saint-Ouen, qui nous a affiché quand même la volonté de nous retrouver au Stade Boer.
Patrice Haddad, le président du Red Star, est en direct avec nous sur RMC. Je voulais vous parler rapidement des derbies avec le Paris FC. Pour vous, c'est une aubaine ou c'est un piège de vous retrouver
non,
en Ligue 2 ?
On l'a vécu déjà en National.
Oui, mais là, c'est en Ligue 2, donc avec une exposition différente.
Oui, il va falloir montrer une belle image et que ça soit une fête. Hein. Je pense que le président Ferracci, moi-même, nous sommes très conscients de ce qu'on doit montrer à travers ce genre de derby. Moi, je pense que c'est une aubaine de faire vibrer une capitale à travers plusieurs clubs.
Je voulais également vous parler de la réunion qui aura lieu demain entre des représentants des clubs de Ligue 2 et puis Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football. Le sujet qui fâche, c'est cette histoire de deux montées et deux descentes hein, de Ligue 1.
Et trois descentes.
Pardon, excusez-moi, oui, si je me trompe, ça va pas aller. Trois descentes pour vous, oui, je parlais pour la Ligue 1 et donc trois descentes de Ligue 2 en National. Vous en pensez quoi, vous, déjà du projet en soi et du fait que ça arrive dès la fin de la saison prochaine ?
Écoutez, je crois que ça a été l'occasion de faire qu'il y ait une commission de travail autour de ce genre de modification de règlement, que ça a pris beaucoup de temps et qu'il y a eu des accords aussi qui ont été validés entre les différentes ligues 1 et Ligue 2, que la Ligue de football professionnel s'est entendue avec la fédération. Enfin, tout ça avait l'air d'être acquis comme une réflexion de rénovation des championnats. Après, il s'est passé peu de choses sur l'impatience qu'a montré la Ligue 1 à vouloir faire ça le plus vite possible, alors que je crois que les accords étaient passés sur 2016-2017. Cette impatience, elle est assez surprenante. Et cette urgence est assez surprenante. Et je pense que c'est assez déstabilisant pour ceux qui triment aussi en Ligue 2 pour essayer de construire un club avec des fondations. Et c'est irrespectueux du travail qui peut être formulé à travers la Ligue 2. Donc je pense que tout ce qui va être possible pour rétablir les accords du départ ou alors de les remettre en question va être utilisé sur un commun accord et dans un accord assez unanime de tous les représentants de Ligue 2.
Apparemment, il y a une nouvelle proposition qui pourrait être faite, à savoir qu'il y a un match de barrage en fait entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2 pour déterminer qui reste en Ligue 1 ou monte en Ligue 1. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant?
Pour éviter de rentrer dans la technique, je crois qu'il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se font pas dans les assemblées, etc. Donc si ce qui se dit est toujours assez valable et assez réconfortant, et dès que les assemblées ou les comités rencontrent, les décisions ne sont pas validées. Donc il va falloir aujourd'hui mettre un système en place où chacun retrouve ses droits pour pouvoir défendre ses intérêts. Puisque la Ligue 1 montre, et je pense que c'est quelques clubs qui influencent l'ensemble des acteurs du championnat de Ligue 1, à leur profit, essayent de voir comment les choses peuvent être validées dans leur seul sens, sans considérer les autres. Je pense que ce manque de solidarité risque de montrer un football à deux vitesses, mais on compte pas laisser s'installer, et je ne parle pas comme un promu qui prend pas la place qu'il devrait prendre en étant que promu. Je parle en spectateur, en auditeur, en participant aussi au football. Je pense que les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes qui ne sont pas respectueuses. 20 présidents que représente la Ligue 2, et je ne vois pas pourquoi les investissements qui seraient faits en Ligue 2 sont moins respectables que ceux qui sont faits en Ligue 1. Donc tout va être mis à plat, et j'espère que la réunion avec le président Le Graët, qui a le bon sens et qui sait d'où on vient et d'où il vient au niveau du football amateur, retrouvera, redonnera un peu de bon sens à tout ça.
Merci beaucoup, Patrice Haddad, d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral Tour. Et je vous dis à très bientôt sur l'antenne d'RMC.
Merci. À très bientôt. Au revoir.
Et on va rester en Ligue 2. Hein. Dans un instant, on sera en ligne avec Safet Susic, la légende du PSG, maintenant entraîneur des Vientenon Gaillard. À tout de suite.
RMC, intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h46, l'intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Ensuite, Florent Gautreau prendra ma place pour l'after. Ce soir, l'after fait des gros plans sur deux clubs, Monaco et Nantes. Donc, si vous êtes supporter ou de l'AS Monaco ou du FC Nantes, vous n'hésitez pas, vous appelez le 3216. Et puis, on vous attend également sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Mais pour l'instant, c'est notre invité qui nous attend. Notre invité, c'est Safet Susic, tout nouvel entraîneur d'Evian Thonon Gaillard. Bonsoir, Safet Susic.
Bonsoir.
Tout nouvel entraîneur d'Evian Thonon Gaillard. J'ai l'impression que ça s'est fait très rapidement, hein, votre arrivée à Evian. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter?
Je ne sais pas, faut vous expliquer, ça s'est passé par hasard. J'étais avec des amis en train de boire un café et un de mes amis m'a demandé si, comme il savait que je cherchais un club, il m'a demandé si Evian ça m'intéresserait. J'ai dit, je ne sais pas, ça dépend des objectifs. Ils m'ont dit, ils jouent pour revenir en première division. J'ai dit, ça peut m'intéresser. Comme je savais que président, il est ami avec Luis Fernandez, cet ami qui m'a mis en contact avec le président, il a parlé à Luis. Luis et le président, ils ont trouvé que c'était une idée intéressante et ça s'est passé comme ça.
Ah, comme quoi, on peut compter sur Luis finalement?
Bah, c'est un ami, on a joué pendant longtemps ensemble. Et vous savez, c'est pas la première fois que je suis invité à être, comment dire, interviewé dans votre émission. Louis, il m'a appelé plusieurs fois quand on a joué les qualifications pour le championnat d'Europe et après pour la Coupe du Monde également. Oui.
Bien sûr. Alors donc, ce qui vous a décidé à dire oui à un club de Ligue 2, c'est la perspective de remonter. C'est ça le challenge?
Oui, ça c'est le challenge, oui, parce que vous savez, dans ma philosophie, pour gagner des matchs, il faut attaquer, il faut marquer des buts. J'ai pratiqué toujours avec mes équipes le football offensif. Et je sais pour jouer pour deux premières places, il faut essayer de gagner des matchs et de marquer pas mal de buts. Et bon, ça m'intéressait parce que je sais qu'Evian, c'est un bon club. Je savais aussi que c'est une bonne équipe malgré quelques départs. On est en train de chercher encore quelques joueurs parce qu'ils pourront passer ceux qui sont partis. On a aussi quelques blessés, mais il reste très très peu de temps. Donc un jour, on joue notre premier match à Nîmes. Il faut comment dire, trouver une équipe rapidement qui va démarrer le championnat.
Oui, parce que c'est ça, entre le moment où vous êtes arrivé et le premier match de championnat, il y a un tout petit peu plus de 15 jours. C'est pas évident. Comment vous vous organisez?
Non, c'est pas évident. Je connais même pas le nom de tous les joueurs. Je connaissais deux joueurs parce que j'ai suivi un peu le championnat français, c'est Barbosa et Sorland. Tous les autres, je les ai vus pour la première fois. Mais il y a des qualités dans cette équipe-là. On a fait un match amical hier soir contre Bastia qui a joué avec la meilleure équipe. On a gagné 2-1. Et j'ai vu qu'il y a des choses intéressantes dans l'équipe. Mais j'ai vu aussi qu'à certains postes, il manque des joueurs.
Ouais, donc c'est ça, c'était votre premier match sur le banc d'Evian hier. Comment ça s'est passé? Parce que justement, si vous ne connaissez pas encore tous les joueurs, vous avez fait quoi exactement hier soir?
Vous savez, moi j'ai observé deux jours. J'ai laissé ancien adjoint de Messi Dupraz, Stéphane Bernard, diriger les Sens, et je laisse aussi hier soir être sous le banc. Moi, j'étais à côté, mais je ne suis pas intervenu. Mais j'ai dit quelque chose, juste quelques mois avant le match, à tous les joueurs, comme je ne connaissais pas l'équipe. Pour moi, tout le monde part pratiquement à égalité. Et ils étaient très motivés parce qu'ils se sont dit certains mots. Il y a une place à prendre dans l'équipe. Et vraiment, tous les joueurs, ceux qui ont joué le premier mi-temps, le deuxième, ils ont tout donné. Ils ont gagné le match, mais c'était juste un match amical.
C'est vrai que l'effectif est forcément un peu réduit. Quand on descend en Ligue 2, il y a forcément des joueurs qui s'en vont. Ouais. Donc vous, avec cet objectif de remonter tout de suite, j'imagine que là, vous voulez encore recruter des joueurs. Et puis, quel va être votre discours d'avant-saison?
Vous savez, moi, je peux pas parler. C'est le président qui m'a dit que l'objectif est de remonter en première division. Mais moi, je ne sais pas encore où on est par rapport aux autres équipes. Je ne peux pas être trop optimiste. C'est vrai, c'était pas mal hier soir, mais il y a certainement des équipes en deuxième division qui se sont bien renforcées et qui ont le même objectif que nous. Ce serait bien de remonter, mais ça va pas être évident. En plus, l'année prochaine, il y a que deux équipes qui montent en première division. C'est encore plus difficile qu'auparavant.
Ah, ça, justement, c'est quelque chose qui divise beaucoup dans le foot français. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, je peux rien dire. J'aurais préféré que ce soit trois équipes qui montent, mais...
Alors, apparemment, il y a une nouvelle proposition qui pourrait être faite, c'est-à-dire qu'il y ait bien deux équipes qui montent et deux équipes qui descendent. Mais la proposition qui pourrait être faite, c'est qu'il y ait un match de barrage entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Ça pourrait être intéressant.
Oui, comme ça se fait en Allemagne, c'est intéressant. Je pense que c'est une bonne idée.
Alors là, vous allez vous retrouver donc à la tête des Vientonneau-Gaillard, club de Ligue 2, alors que vous avez été là dernièrement sélectionneur de l'équipe de Bosnie, que vous avez qualifié pour la Coupe du Monde. C'est pas du tout le même défi quand même. Vous avez l'impression de revenir en arrière
Bah, écoutez, j'avais quelques propositions, mais franchement, pour vous dire la vérité, j'attendais un peu plus de propositions. J'avais quelques propositions des équipes nationales, mais j'avais vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Oui. C'est pour ça, bon, quand il y a l'offre d'Evian s'est présentée, j'ai pas beaucoup hésité.
Alors, c'est un retour à la tête d'une équipe française, 20 ans après avoir quitté la SCAN. Quel est votre sentiment par rapport à ça?
Comme je n'ai pas entraîné en France depuis longtemps, je pensais que plus jamais je travaillerais en France. Je me suis apparemment trompé. Ça fait plaisir. Mais moi, vous savez, moi, je n'ai jamais quitté la France. Même quand j'étais sélectionneur de la Bosnie, j'ai passé au moins 6 mois en France. J'ai ma famille qui est à Paris. Et je suis français, j'ai obtenu la nationalité française il y a presque 30 ans. Et c'est vrai, avant peut-être j'ai pas fait grand chose pour revenir en entraîner en France, mais j'avais aussi beaucoup plus de contacts et beaucoup plus d'offres de l'étranger que de la France. Oui.
Franchement, nous, on a envie de vous voir réussir à Evian parce qu'on a envie de vous voir en Ligue 1 et vous savez particulièrement pour vous voir jouer contre le PSG, forcément.
On va attendre un peu, mais merci beaucoup. On va tout faire pour atteindre l'objectif que le club s'est fixé, mais je sais que ça va être extrêmement difficile.
Merci beaucoup, Safet Souzidj, d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral tour sur RMC. Et bonne saison, bonne préparation. Merci. Encore un match qui arrive là samedi, hein, c'est ça?
Oui, c'est un match amical contre une équipe qui est montée en deuxième division.
Bourg-Péronas.
Bon. Oui, c'est ça. Et on a encore un match prévu pour le 24-25 juillet, mais on n'a pas trouvé encore l'adversaire. Et on joue le premier match, je pense, 30 ou 31 animes.
C'est ça. Merci beaucoup, Safet Souzidj. Et on vous dit à très bientôt sur l'antenne d'RMC.
Merci à vous. Au revoir, bonne journée.
Et on va continuer à parler de foot, mais de foot américain. Oui, c'est assez rare. Une équipe de France qui brille aux États-Unis. Le championnat du monde de foot américain se dispute en ce moment aux États-Unis, donc dans l'Ohio précisément. Et la seule équipe qui représente l'Europe, eh bien, c'est la France. Ce soir, demi-finale contre les Américains. On va dire que c'est déjà un exploit d'être arrivé là, Maureen Lehoux.
Oui, parce que le foot américain en France, c'est seulement 21 000 licenciés. Pour comparaison, le football en compte plus de 2 millions. En France, aucun athlète n'est professionnel et c'est surtout le monde de la débrouille. Cette équipe de France aurait d'ailleurs pu, faute de moyens, rater ce championnat du monde. Elle ne doit sa présence aux États-Unis qu'à du crowdfunding, du financement participatif, où elle a récolté plus de 25 000 euros. Les Bleus reviennent de loin, mais y ont toujours cru. Paul Durand, le quarterback.
Les joueurs, ils ont été préparés pour pouvoir partir, pour pouvoir faire quelque chose là-bas. Alors maintenant, après, le sport amateur fait qu'on a des moyens, peu de moyens. Donc pour le coup, on revient un peu loin. C'est une belle récompense. Maintenant, on n'a rien, on n'a rien accompli pour l'instant encore. On a un coach qui est ultra compétitif. Donc voilà, l'objectif, ça serait d'être champion du monde.
Pour atteindre cet objectif, les Bleus devront battre le double champion du monde en titre, les États-Unis qui plus est à la maison. Alors bien sûr, en face, la France, seule équipe européenne engagée dans la compétition, fait figure de petit pousset. Mais elle pourra s'appuyer sur ses deux très bons premiers matchs, deux victoires face à l'Australie et le Brésil avec 84 points inscrits. Mais en tout cas, quel que soit le résultat, la France a déjà réalisé la meilleure performance de son histoire.
En France, États-Unis, en foot américain, demi-finale du championnat du monde. C'est cette nuit, c'est à 1h du matin, pour ceux qui se couchent un peu tard. C'est sur Internet uniquement. Et on en parlera demain encore dans l'Intégral Tour qui se termine. Maintenant, l'Intégral Tour, on vous donne rendez-vous demain dès 18h. Je vous rappelle que c'est Rafał Majka qui a remporté la 11e étape du Tour de France à Cotterêts dans les Pyrénées. Une victoire en solitaire. Chris Froome a bien sûr toujours le maillot jaune sur les épaules. Demain, 12e étape entre Lannemezan et le plateau de Bay, Intégral Tour des 14h sur RMC. Et puis en escrime, Gauthier Grumier, vice-champion du monde à l'épée, c'est à Moscou. Il a été battu par le Hongrois Géza Imre en finale. C'est la deuxième médaille pour l'équipe de France après l'argent de Cécilia Berder au sabre hier. Florent Gautreau est arrivé. Salut, pour l'after. Monaco, Nantes, on va beaucoup en parler hein, ce soir.
Absolument, au programme, d'ailleurs supporter monégasque et nantais, vous pouvez prendre votre place et votre ticket. On va parler de vos deux clubs au programme bien sûr, le Mercato Show, et notamment la guéguerre marseillo-canaise autour de N'Golo Kanté. On va tout vous expliquer. Vous nous appelez au 32-16 aussi pour la fronde des clubs de Ligue 2 qui commence à s'organiser. Et puis le débrief des matchs amicaux, on le fait chaque été, on va pas se priver, on va pas se gêner. Lyon-PSV Eindhoven sera terminé, allez, dans une petite demi-heure. Et bien supporters lyonnais, vous pourrez nous appeler au 32-16 pour débriefer les matchs avec nous. Tout ça, c'est dans l'after, plus le je m'en fous pas et le quiz. On arrive dans quelques instants.